Hello, hello! C'est encore moi. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la 9e semaine. Toujours pour le même challenge de film par mois, non, par semaine, pas par mois, par jour, oui. Alors, vous avez remarqué que je suis un peu plus assidue, puisque ça fait qu'une semaine que vous avez eu votre dernier podcast. Donc on continue avec la suite! On continue sur de bonnes bases en restant constant dans les posts de podcast. Ça ne rime pas du tout, mais c'est pas grave. Bref. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Les Gardiens de la Galaxie, Gatsby le Magnifique, un documentaire qui s'appelle Et j'ai choisi de vivre, Bruce Springsteen à Broadway, Pretty Woman, The Edge of 17 et Adaline. Bon, vous allez vite comprendre que, comme d'habitude, il y a des hauts et des bas dans ces films. Certains que j'ai adorés, certains où je me suis très ennuyée. Je vais pas dire détestée parce qu'il n'y en a aucun jusqu'à présent que j'ai détesté. Je ne crois pas en tout cas. Mais certains, voilà, c'est juste pas possible. Je les reverrai pas une deuxième fois, c'est clair et net. Alors commençons tout de suite. Premier film, Les Gardiens de la Galaxie. C'était le film suivant dans ma liste, dans l'ordre des Marvel, hein, dans lequel il fallait regarder Marvel. Alors pour être honnête avec vous, j'avais déjà vu ce film-là, mais pas complètement, je crois. Ou alors vraiment d'une façon à moitié là, à moitié pas là, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, bah, je l'ai regardé cette fois-ci un peu plus attentivement, en me disant je vais essayer de suivre. Sachant que enfin, vous savez très bien que les Marvel, je trouve qu'ils sont souvent trop longs, avec trop d'action. Et donc, difficile de suivre, difficile de comprendre qui fait quoi, qui est qui a quel pouvoir, etc. Bah ici, pareil. Je trouve déjà que dans le cas de la galaxie, c'est difficile parce que ben, on a des noms un peu bizarres, des noms de planètes, des noms d'aliens, des noms de créatures, des noms de planètes. Ouais, j'ai déjà dit, mais bref, des noms voilà, comme Planète Nova ou des bazars ainsi. Voilà, autant vous allez me dire c'est normal, c'est le type de vocabulaire, de termes qui sont souvent utilisés dans les films de science-fiction. Je comprends bien, mais autant vous dire que dans les Marvel, comme beaucoup de personnages sont liés, il faut se rappeler d'un film à l'autre qui est qui et quel pouvoir il a, et en quoi il est lié avec le nouveau, s'ils se connaissent déjà ou s'ils se connaissent pas. Et en plus ici on est sur un autre un peu, je vais pas dire univers, mais quand même quoi. Alors de base, l'histoire commence assez facilement, elle commence dans une réalité auquel on peut tous se reconnaître, quoi. Un petit garçon perd sa maman. Et après, ça part un peu en live, quoi. On découvre des trucs, des nouvelles créatures, etc. Bon, c'est le but de la science-fiction, on est d'accord. Mis à part ça, le fait que je trouve ça difficile à suivre, qu'il y ait des noms qui sont pas facilement retenables, etc. C'est un des Marvel où j'ai le plus ri. Enfin, je me rappelle pas avoir rigolé autant aux blagues ou aux moments un peu cocasses qu'il y a dans les Marvel, dans les autres films, je sais pas pourquoi. Après, c'est vrai que Groot, par exemple, pour ceux qui connaissent le film, le personnage de Groot aide beaucoup parce qu'il fait rire. Voilà, de toute façon, il dit rien, il sait juste dire je suis Groot ou un truc comme ça. Donc, mais c'est ça qui est drôle en fait. Et on s'attache facilement à ce petit personnage-là, etc. Après, ce que j'ai bien aimé dans cet univers-là aussi, c'est que les décors sont plus accueillants, si je puis dire. Bah, simplement, par exemple, pour ceux qui sont comme moi de Belgique, vous reconnaîtrez sûrement la gare de Liège. Ou en tout cas, une réplique. Ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Enfin, en quoi des réalisateurs américains se sont inspirés d'une gare belge pour leur décor? Mais bon, why not, hein, c'est marrant à voir. Enfin, je sais pas, c'est beaucoup plus lumineux, il y a plus de couleurs, il y a beaucoup plus de. C'est moins sombre, en fait. Et du coup, c'est. Pour une fois, ça semblait être un film un peu plus léger, un peu plus fun. Et je pense que c'est le ton qu'ils voulaient donner avec ça, avec les Gardiens de la Galaxie. Même si des fois, on se dit c'est un peu des Gardiens de la Galaxie en carton. Mais bon, voilà, on leur pardonne. Après, voilà, je dirais pas que c'est un des Marvel que je préfère. Parce que j'ai quand même dû le regarder deux fois pour me remettre dedans, pour comprendre, etc. Et il faut vraiment être prêt à apporter toute ton attention sur le film, quoi. Tu peux pas louper quelques minutes et te dire oh, c'est bon, je comprendrai tout. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Et ça me rappelle encore pourquoi, même encore aujourd'hui, pourquoi je n'ai pas continué les Marvel à l'heure actuelle, pourquoi j'ai jamais été attirée par cet univers, pourquoi je ne les revois pas pour le plaisir, parce que je ne sais même pas vous dire ce qui se passe dans un tel film. Voilà, je vois encore, voilà, la semaine prochaine, il y en aura de nouveau, bien sûr, vu qu'il y a plusieurs. Je n'ai pas regardé un film chaque semaine, mais quasiment. Donc dans chaque semaine d'épisode, vous aurez au moins un film Marvel à chaque fois, jusqu'à ce que je termine le challenge. Que je termine la liste des films Marvel, pas le challenge en soi. Mais ouais, c'était. Chaque fois que je vois un titre, je me dis, ça racontait quoi encore celui-là? Enfin, j'ai aucun souvenir. Ok, mais allez, enfin, je veux dire, trois quarts des films que je regarde, je me rappelle quand même un minimum de quoi ça parle. Si je sais plus, je vais voir l'affiche du film et cela, ça me rappelle. Mais là, non, les films Marvel, ça marche pas du tout comme ça chez moi. Bon, passons ensuite au suivant, qui est Gatsby le Magnifique. Film de 2013 avec Leonardo DiCaprio. Je sais qu'il y a encore des plus anciens, mais je ne les ai pas regardés. Je sais pas pourquoi ce film-ci m'intéressait, m'attirait surtout. Du coup, j'étais vers celui-là. Pour tous les fans de l'histoire, du livre, de littérature, etc., je n'ai pas lu le livre, mais c'est prévu. Je n'ai jamais lu le livre parce que je ne suis pas une très grande fan de livres classiques. J'ai un très mauvais souvenir des classiques dus à l'école, parce que ce qu'on nous faisait lire ne me passionnait pas. Je m'attachais à aucun personnage. La façon dont c'était écrit ne me plaisait pas. C'était toujours dans un vieux français très impersonnel. Je m'attachais à personne, en fait. Donc j'ai toujours du mal à commencer un classique à cause de ça. Après, je me suis un peu réconciliée avec eux. J'ai lu Orgueil et Préjugés, j'ai lu Les 4 filles de Dr. Marsh. Je pense que j'en ai lu d'autres, mais je ne sais plus lesquelles. Enfin bref. Et autant Les 4 filles de Dr. Marsh, j'ai pas trop compris pourquoi on considère ça comme un classique, parce que franchement, c'est très facile à lire. Orgueil et Préjugés, je l'ai pas trouvé si dur, même si je m'attendais à pire, mais peut-être que l'époque ou la nationalité de l'autrice fait que c'est pas si dur. Mais bon. C'est un long livre pour pas grand-chose, je trouve, Orgueil et Préjugés, mais c'est un autre débat. Du coup, Gatsby le Magnifique, je me dis si c'est. Je me dis, je vais regarder le film. Si l'histoire ne me dérange pas dans le film, je me lancerai dans le livre. Et effectivement, l'histoire, je l'ai pas trouvée difficile à comprendre, je l'ai pas trouvée trop ennuyeuse, même si ce n'est ni le style de narration, ni l'époque, ni. Le style d'histoire, on va dire, d'intrigue qui m'attire à la base. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas du tout comme moi, qui sont arrivés totalement en terrain inconnu, Gatsby le Magnifique, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Gatsby, mais contée par un écrivain, un de ses amis écrivains. Un écrivain qui débarque un peu qui débarque à New York, mais dans le. Il se met à côtoyer la haute bourgeoisie, on va dire, et tout le monde lui parle de Gatsby, 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 et il ne sait pas qui est Gatsby, il l'a jamais rencontré. Et c'est là aussi un peu que ça m'a un peu gêné dans le film, c'est que ils prennent presque 30 minutes avant de nous présenter Gatsby. C'est-à-dire qu'on voit l'écrivain, voir sa vie, etc., rencontrer la haute société new-yorkaise, aller à des fêtes et autres, et on sent qu'il y a Gatsby là, qui est assez mystérieux, et alors on se dit, mais c'est qui? Sauf que bon. Quand tu regardes un film pareil, t'as vu l'affiche au début, tu sais que Gatsby, ça va être joué par Leonardo DiCaprio. Tu t'attends à le voir venir. Donc, quand on te montre Leonardo DiCaprio, tu sais déjà que c'est Gatsby. Donc, il n'y a plus aucune surprise. Mais 30 minutes pour nous montrer qui c'est. Pardon, mais bon, voilà, 15 minutes, ça aurait été mieux, quoi. Donc, en gros, Gatsby, bah, c'est aussi un gars riche, hein, de New York, là, ou du New Jersey. Je ne sais plus. Enfin bref, il fait des fêtes tout le temps chez lui dans sa grande maison, au bord du Nil, au bord du fleuve ou du lac, je ne sais pas exactement, mais bref. Et du coup, l'écrivain, bah, il se fait inviter, il est un peu inconnu dans ce monde-là, lui, hein, donc il débarque, etc. Il est un peu empoté. Et il apprend à connaître Gatsby, et donc il raconte son histoire ici, il raconte son passif, lui, avec Gatsby, comment il a appris à connaître Gatsby, etc. Et on découvre un peu la vie de Gatsby. Et en fait, Gatsby, je m'attendais à un mec superficiel, vantard, moqueur, etc. Enfin, qui se prend au-dessus de tout le monde. Et en fait, pas trop. Même s'il a un peu cet air-là, au final, j'ai plus de la compassion pour lui qu'autre chose. Parce qu'en fait, toute l'histoire tourne autour du fait que il ne s'est pas remis de sa rupture, ou du rejet qu'il a eu avec une fille. Et cette fille-là, bah, elle est mariée avec un gars que Gatsby invite régulièrement à ses fêtes. Et il flirte avec la fille régulièrement, il essaie toujours de danser avec elle, de se retrouver seul avec elle et autres. Et au final, bah, elle assume pas. Elle est peut-être toujours amoureuse de Gatsby, on sait pas trop, à mon avis, oui. Parce qu'elle ne le dit pas clairement, mais elle ne fait rien pour quitter son mari et rester avec Gatsby, quoi, à la place. Et Gatsby, bah, ça le tue, quoi, ça, au final. Donc au final, c'est une histoire quand même assez tragique. Ça se termine pas bien pour tout le monde, voilà. Et je trouve ça triste. Enfin, oui, c'est triste, mais je veux dire, tout le long du film, j'ai dire à Gatsby, mais arrête, tu joues avec le feu, parce qu'il arrête pas de voler des astors avec la fille là tout le temps pour Daisy, je pense que c'est le personnage qu'elle s'appelle. Et t'as voulu lui dire, mais arrête, en fait, tu vois bien qu'elle est mariée, donc. Enfin, je sais pas, arrête de t'humilier comme ça, quoi. À un moment donné, si elle voulait être avec toi, elle y serait depuis longtemps, quoi. Et voilà. Et donc, c'est un peu triste parce que tout le film est autour de ça. C'est comme 2 heures 20 à regarder un mec tourner autour d'une fille qu'il n'aura jamais, quoi. Et à un moment donné, je me disais même, mais pourquoi tu lui cours après? Tu vois bien qu'elle n'a rien à faire. Mais en fait, ils ont un passif ensemble, donc. Mais ça, on l'apprend que très tard. Donc, j'étais là, bon, ben. Bah. Elle a juste pas le courage d'assumer ses sentiments, qu'est-ce que tu veux? Et en même temps, bah, à l'époque, je sais pas si t'étais très bien vu non plus de quitter son mari, parce que je pense que l'époque du film se déroule durant les années 20, vu leur tenue de l'époque, les festivités, la musique, etc. Donc je pense pas qu'à l'époque, t'étais très bien vu de se séparer de son mari, de demander le divorce, etc. Surtout dans la société, hein, ça jase beaucoup là-bas. Bon, bref, je trouve que c'est un peu long de faire 2h20 de film juste pour ça. Et on n'a même pas une happy ending. Voilà, désolé pour le spoiler, mais au moins vous êtes prévenus, quoi. Autre petite chose que je voudrais noter dans ce film qui m'a gênée, c'est que dès le début, on a une musique un peu années 20, là, hein, type un peu Charleston, etc. Mais bon, bah au moins ça donne le décor de suite, quoi. On sait de suite dans quoi on met les pieds, ce qui est plutôt bien. Et après, le film commence, et là, on te balance une musique de Jay-Z. Désolée, mais j'ai pas compris. Et du coup, j'ai été voir la bande originale du film, l'album avec les chansons, et le trois quarts, c'est des chansons. T'as Jay-Z, t'as Florence and the Machine, t'as, je crois, peut-être Beyoncé aussi, je suis pas sûre, parce qu'en général, là où Jay-Z, Beyoncé y est aussi. Et j'étais là, mais. En fait, que vous auriez mis Jay-Z et Beyoncé ou quoi dans le dos et que vous leur auriez demandé de me faire une musique type années 20, ok. Parce que là, la musique de Jay-Z, je suis désolée, c'était années 2020. Pas année 1920. Il y a un petit problème dans ce cas-là. Et j'étais là, mais ça colle pas du tout, en fait. Les gars, les décors. Ok, l'image est qualité année 2020, parfait. Les décors sont typiques année 1920. Mais la musique qui va avec. Après, tout le reste du film, on a aussi des musiques assez. Ouais, type année 20. Donc là, ça ne choque plus. Mais dès le début du film, moi, ça m'a choqué dès le début. J'étais là, ok. Donc en fait, vous allez. Mismatché comme ça, deux époques complètement différentes, 2 siècles différents, en fait. C'est quoi le délire? Surtout que le film a été fait en 2013, donc même pas en 2020, mais moi je le regarde quasiment, il y a quasiment 1 siècle de différence entre l'époque où le film est censé se passer et le moment où je le regarde, quoi. Enfin, comment on peut faire une telle incohérence, quoi, sur un tel film avec de telles stars dedans? Enfin, bref. C'est un détail, mais moi ça me choque. À un moment donné, il faut être cohérent dans ce que tu fais, quoi. Tu fais un film des années 20, tu fais des décors, des costumes, du maquillage, et la musique, type années 20, point! C'est pas compliqué quand même, si? Bon, continuons sur une note. Ah bah non, désolé. Prochain film, c'est un documentaire. Pas très drôle, mais quand même un peu positif, hein, on va pas se mentir. Il s'appelle Et j'ai choisi de vivre. C'est un documentaire français. Réalisé par, vous le reconnaîtrez sûrement parce que c'est un des deux gars qui a créé le. Comment est-ce qu'on appelle ça? L'émission, je sais pas ce que tu appelles ça une émission. Nu et culotté. C'est Nance, notamment, dedans, ici, qui va diriger tout le documentaire et l'interview. Et en gros, ce documentaire parle interview des parents qui ont perdu leur enfant. D'une maladie, d'une fausse couche, d'un accident, etc. Bref, vous aurez un peu toutes sortes de témoignages. Je sais même pas pourquoi j'ai choisi de regarder ça. Je Peut-être que je voulais le comprendre, je sais pas, mais je vais pas passer 10 000 ans ici dessus, parce que moi je peux pas parler de ce genre d'expérience. Autant j'ai connu plusieurs deuils de ma vie, autant la perte d'un enfant, je ne saurais pas, je n'ai pas d'enfant. Donc je ne vais jamais prétendre ici vous dire que je comprends ce qui ressort, que ce film m'a pris aux tripes, etc. Alors oui, j'étais touchée, mais de là à dire que je peux comprendre, que je me suis mis à leur place, j'ai du mal, évidemment. Ça n'enlève rien au fait que ce sont des parents qui souffrent et que c'est un magnifique documentaire. Si vous êtes passé par là et que vous avez du mal à avancer dans votre vie, bon, après c'est difficile, c'est clair, mais je veux dire, à vivre sereinement ce deuil-là, si vous avez perdu un enfant, peut-être que ce documentaire-là pourrait vous aider. Moi, je peux pas vous en dire vraiment plus parce que c'est vraiment pas. J'ai pas vécu ce genre d'histoire, ce genre de passage dans ma vie, donc je peux pas en parler correctement pour vous aider. D'ailleurs, c'est pas, on n'est pas dans une séance psy ici, mais je veux dire, voilà, simplement c'est un documentaire sur des parents qui ont perdu un enfant. Point. Si vous ressentez le besoin d'écouter d'autres personnes parler de leur expérience sur ce genre d'expérience très traumatique, n'hésitez pas. Franchement, au pire, ça vous coûterait, je pense, parce que le film est à disposition gratuitement. Mais franchement, si ça peut vous faire du bien, faites-le. Enfin, voilà, ça coûte rien. Et surtout si vous vous sentez seul en vous disant, bah, personne ne comprend ce que je vis. Bah, voilà, y a quelqu'un qui a fait un film là-dessus, on montre. Et surtout, le titre veut tout dire. Et j'ai choisi de vivre. Voilà, ce sont des parents qui, ouais, ont vécu un truc traumatisant en perdant leur enfant. Et ils expliquent dans ce documentaire comment ils ont choisi finalement de continuer à vivre. Donc voilà, ça, c'est. Vous ne finirez pas sur une note dramatique, au moins. Ça vous donnera peut-être un peu d'espoir pour la suite. Bon, concernant le prochain film, j'ai pas grand-chose à dire, puisqu'il s'agissait de concert. J'ai regardé le concert de Bruce Springsteen à Broadway. Je m'attendais à un concert rock'n'roll, mais c'était vachement plus calme. Après, voilà, c'est Broadway, c'est pas Hyde Park, c'est pas Madison Square Garden, c'est Broadway. Donc, voilà. Je l'ai surtout regardé parce que je m'intéressais à Bruce Springsteen à ce moment-là, mais surtout parce qu'on ne pouvait pas aller à des concerts en fait. Et je me dis, c'est quand même un goal de la vie, un but de la vie de voir un jour Bruce Springsteen en concert, c'est quand même The King quoi. Mais voilà, je vais pas faire 10 minutes sur ce concert, film, concert, je sais pas comment il a appelé ça. Mais voilà, si vous êtes fan. Je suppose que vous l'avez déjà vu. Perso, moi j'ai bien aimé. Voilà, j'ai passé un bon moment. J'ai quand même découvert pas mal de ses chansons. Je les connaissais pas toutes. Je les connais toujours pas toutes. Mais les principales, les plus connues étaient là. Et du coup, c'était assez fun de les voir dans une autre version que celle qu'on connaît. J'ai regardé un grand classique que je n'avais jamais vu. Et peut-être que certains m'ont choqué que je ne l'ai jamais vu d'ailleurs. J'ai regardé Pretty Woman. Bon, comment dire? Je vais pas casser l'ambiance disant que j'étais déçue, etc. C'est un bon film, franchement, je comprends pourquoi il est connu. Moi, de base, je pensais que l'histoire était entre une fille très riche et un mec très pauvre, ou l'inverse. Et j'ai pas vu venir le fait que la fameuse Pretty Woman, donc. Julia Roberts, soit en fait une prostituée. Ce fait-là, je l'avais pas vu venir. J'étais là, ah oui, ah, on m'avait pas dit ça. Bon, pourquoi pas, écoute. Donc voilà. Voilà, et elle joue avec Richard Gere, du coup, qui est le fameux personnage riche qui embauche la prostituée. Et donc, bah, voilà, on s'attend. En tout cas, c'est ce qu'elle s'attendait, voilà, relation sexuelle avec monsieur qui l'embauche, etc. Et en fait, bah. Oui, il y a une relation sexuelle, mais c'est pas que ça. Et alors vous allez dire, bah oui, enfin, moi je me suis dit direct, bah oui, d'office, ça va tomber amoureux, c'est une romance. Bah, ils sont pas tombés amoureux de la façon dont je pensais. Mais vraiment pas. C'est. Donc j'étais quand même agréablement surpris parce que dans ma tête, bah. J'avais jamais vu Pretty Woman, mais j'en avais tellement entendu parler. J'avais jamais eu. On m'avait jamais raconté l'histoire. Hein. On m'avait plutôt dit, voilà. C'est une fille un peu paumée, pauvre, qui tombe amoureuse d'un mec. C'est vraiment le gros truc qu'on m'avait dit, quoi, c'est tout. Et du coup, je suis là, bah. C'est pas du tout ce que j'avais en tête, quoi. Et donc j'étais assez agréablement surprise. Et ça, pour le coup, c'est un film que je reverrai bien encore. Mais après, j'ai l'impression, je ne comprends pas trop non plus pourquoi c'est devenu un classique, pourquoi certains films sont devenus intemporels comme ça, que c'est des films à revoir X fois dans une vie parce que ils sont tellement classiques, ils ont eu un succès fou à l'époque. Je comprends pas pourquoi à l'époque c'était un succès fou en fait. Parce que des histoires comme celle-ci, j'ai l'impression que c'est un peu la même recette que Coup de foudre à Manhattan, ou Coup de foudre à Notting Hill, ou etc. Enfin, tous les coups de foudre à machin. Je m'attendais à un truc pareil en fait, moi. Ça y ressemble fort. Et bon, c'était pas vraiment le cas. Mais ouais, je sais pas, je suis un peu mitigée. Pour moi, tous les films comme ça qui sont censés être très connus, très très intemporels, devenus des classiques du cinéma, tellement ils ont eu du succès en fait, je pense que c'est pour ça. Pour moi, ils sont un peu trop surcotés, quoi. C'est un peu comme The Bodyguard, là, que j'ai regardé au début de ce challenge. Je me dis, bah oui, c'est un beau film, mais sans plus. De là à dire que c'est un classique, de là à dire que c'est un des meilleurs films du cinéma, j'irai pas jusque-là. Parce que pour moi, j'ai l'impression que le résumé, l'histoire, enfin voilà, le but, toute la construction d'histoire, pour moi, j'ai l'impression que c'est du déjà-vu. Même s'il y a quelques petites choses surprenantes, comme dans Pretty Woman, où c'est une prostituée, etc. Pour moi, ça reste du déjà-vu. Ou du déjà-fait à Hollywood, quoi. Peut-être qu'à l'époque, c'était pas déjà fait à Pretty Woman, mais moi, étant donné que j'ai vu plein d'autres romances comme ceci, avec à peu près la même recette que Pretty Woman, qui sont sûrement inspirées de Pretty Woman, et que maintenant je vois Pretty Woman, bah forcément je trouve Pretty Woman un peu fade. J'aurais peut-être dû voir Pretty Woman avant de voir tous les autres, je sais pas. Mais bon, voilà, je suis toujours un peu sur ma faim dans ces films un peu intemporels qui ont un succès fou, et donc j'en attends beaucoup, et du coup, bah, je suis toujours un peu déçue en me disant « Ah, bah je m'attendais à mieux !» Je m'attendais à un truc énorme, à des trucs extraordinaires. Mais bon, voilà. La plupart de mes films préférés ne sont pas les films préférés du grand public. Voilà. Moi, j'ai besoin d'être surprise. Et ben, j'ai quand même été à The Pretty Woman. Mais pas au point de bondir de ma chaise en me disant waouh, ça, c'est un film extraordinaire, je veux le revoir. Il doit être sur la liste des meilleurs films du cinéma, quoi. Tout le monde doit l'avoir vu dans sa vie. Je me suis pas dit ça. Donc. Voilà. Franchement, j'ai l'impression que je suis vraiment une grosse rabat-joie parce que tous les films que je vous présente, rarement je les aime. Bon, suivant, malheureusement, encore un où j'étais un peu déçue. Il s'appelle The Edge of 17. Donc, ça raconte l'histoire d'une adolescente de 17 ans qui, enfin, n'avait pas d'amis et qui, enfin, trouve une amie en étant petite. Et elle reste meilleure amie avec cette fille-là quasiment toute sa vie. Pas toute sa vie, jusqu'à ses 17 ans, on est d'accord. Ouais. Et ben, cette amitié se retrouve compromise parce que sa meilleure amie couche avec son frère. Après une fête, elle était couchée avec son frère. Donc voilà, le monde s'effondre pour Nadine, notre personnage principal. Et bien sûr, elle en veut à sa meilleure amie d'avoir fait ça. Et ensuite, elle en veut à son frère parce qu'elle sait très bien comment est son frère avec les filles, qu'il les traite mal, etc. Bref, c'est un gros cliché. D'ailleurs, c'est pas un gros cliché vu que son frère est joué par Blake Jenner, qui est lui-même a été accusé de violence conjugale sur sa femme Mélissa Benoît. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mélissa Benoît et Blake Jenner étaient tous les deux dans Glee. Je ne sais plus. Elle jouait Marley et lui jouait je ne sais plus qui. Mais bon, bref. Voilà. C'est comique de se dire que le gars est quand même accusé de maltraiter les filles dans ce film-là d'ado. Alors que dans la réalité, il est comme ça, bref. Il est pire que ça même. Bref, petite parenthèse. Mais du coup, bah, Nadine, le personnage principal, bah, pour elle, son monde s'effondre, quoi. Pour elle, elle a plus de meilleure amie. Bon, son frère s'entend déjà pas bien avec, donc qu'il soit là, qu'il soit pas là, elle fait avec. Et donc, elle ne parle plus à sa meilleure amie, etc. Elle est folle amoureuse d'un gars dans son école, mais il est populaire et elle ne l'est pas. Etc. etc. Et elle n'est pas en bon terme avec sa mère, elle a perdu son père, enfin bref. Dramatique comme pas possible d'histoire. Et vous allez dire, tu vas aimer, mais non. Parce que à un moment donné, j'avais envie de la secouer, je me dis, mais meuf, c'est pas la fin du monde. Après, J'ai 25 ans, on a 17. À 17 ans, j'aurais sûrement réagi de la même façon. Et alors, du coup, qu'est-ce qui fait un peu changer l'histoire? Bah, elle fait une gaffe avec le mec qu'elle aime. Et d'un côté, bah, c'était très prévisible parce qu'elle fait une gaffe. Bon, elle va annoncer du coup à un de ses profs. Et d'ailleurs, j'ai regardé le film pour le prof en question parce que le prof est joué par Woody Harrelson, que j'aime beaucoup. Woody Harrelson, vous l'avez vu dans les trois panneaux de la vengeance, dans Hunger Games, c'est lui qui jouait Mitch. Et voilà. Et j'aime beaucoup cet acteur-là. Malheureusement, dans ce film-ci, on le voit 10 minutes tout cassé. Bon, il joue un super rôle, il joue le... Il viendra en aide à notre personnage principal quand elle le demandera, mais clairement, le début du film, vous la voyez direct aller le trouver en disant « Je vais me suicider et il fallait que je dise à quelqu'un. » Et lui, il continue à manger son sandwich comme si de rien n'était. Donc t'es là « Ok, donc on est dans une comédie dramatique d'adolescente où on ne prend pas du tout en compte le fait que quelqu'un te dit que il va se suicider. » Bon, par moi, c'est une comédie, pas un drame, mais bon, quand même, ça m'a un petit peu choqué. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, elle fait une gaffe du coup avec le mec en question, mais ça lui va lui apprendre que c'était pas le mec fait pour elle, et en fait, depuis tout ce temps-là, elle a un mec sous ses yeux qui ferait tout pour elle. Voilà, c'est les histoires de romance classiques des films d'adolescents. On peut pas trouver. Bon, ça change un peu d'autres films, bien sûr, hein, chaque histoire est différente, mais quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, ça me fait penser un peu à. Vous savez, les films Netflix là qu'on fait, qui ont été très à la mode il y a quelques années, de Kissing Booth et À tous les garçons que j'ai aimés, etc. Enfin bref, j'ai trouvé ça un peu. C'est des films très légers, faut pas se prendre la tête, faut pas s'attendre à grand chose, faut pas s'attendre à du grand art, hein, franchement pas. Et bon, bah, pour celui-ci, bah, j'étais un peu déçue parce que tout ce qui allait arriver, je le prédisais un peu, quoi. Je sentais venir le truc. Donc voilà, niveau surprise, j'étais pas conquise, clairement pas. Donc pour moi, ce film, je me suis quand même vachement ennuyée. J'ai lâché le film à un bon moment. Bon, mais après, voilà, j'ai plus l'âge qu'il faut pour regarder ça, en fait. Tout simplement, ça m'intéresse plus, donc. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, clairement. Mais bon, on va finir sur une bonne note quand même. Cette note, ça s'appelle Adaline, ou. The Age of Adaline en anglais. Dans le rôle principal, vous allez retrouver Blake Lively. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, vous la verrez dans Gossip Girl, dans Quatre filles à Jeans, dans The Green Lantern, dans L'ombre d'Emily, etc. etc. Ou alors, elle est très connue pour être la femme de Ryan Reynolds, si ça vous parle plus. Bref. Et donc, l'histoire est. C'est très simple. Adaline est une jeune femme qui a survécu à un accident qui aurait dû lui coûter la vie, mais elle a survécu et cet accident lui permet de ne jamais vieillir. Notre rêve à tous! Et donc, en fait, dans le film, elle est censée avoir 80 ans, mais en fait, elle a toujours le physique de ses 29 ans. C'est ça qui est drôle. Après, vous allez me dire, c'est un peu du déjà-vu quand même, comme style. Même si plutôt, moi, j'ai déjà vu des films. Notamment l'histoire de Benjamin Button, ou pour ceux qui ne connaissent pas le film About Time, là c'est plutôt l'inverse, c'est des mecs qui ont le don de ne jamais vieillir, mais de rajeunir, ou de voyager dans le temps, etc. Ici c'est le cas qu'elle ne voyage pas dans le temps, elle vit au temps présent, etc. Elle a 80 ans en réalité, mais elle ne vieillit plus. Du coup, bah, ça l'empêche un peu d'être heureuse, on va dire, puisqu'elle vit sa vie, etc. Et ici dans le film, bah, elle va tomber sur un jeune homme. Et ils vont tomber amoureux, et évidemment, bah, elle n'ose pas trop, parce que comment dire à quelqu'un qui a 29 ans qu'en fait, bah, elle en a 80, quoi. Et une histoire comme quoi elle connaît le père du gars en question, quoi, qu'ils ont déjà été ensemble, je crois, enfin, je sais plus trop exactement, mais bref, c'est assez compliqué comme histoire et dramatique, mais c'est un film que j'ai bien aimé, parce que je ne savais rien de l'histoire, j'ai juste vu l'affiche, et je me suis dit, bah. De quoi ça va parler, quoi. Franchement, j'étais agréablement surprise. Donc, pour une fois, on finit sur une bonne note avec un bon film que je vous recommande. Même si il y a du drame, évidemment, vu que il y a une histoire d'amour un peu impossible, mais ça reste pas cliché, en fait. Voilà. Ça tombe pas là du cliché comme on a l'habitude dans les films d'amour. Ici, c'est pas du tout le cas. J'ai pas envie de vous spoiler parce que franchement c'est un film que j'ai apprécié et que Voilà, j'aimerais pas te spoiler en fait. Si moi je voulais le voir, j'ai pas été spoilé pour le voir, donc c'est ça qui a fait que j'étais agréablement surprise. Et c'est ça aussi qui fait que les films précédents dont je vous ai parlé m'ont souvent déçu, c'est parce que j'avais des attentes en fait. C'est toujours le même principe dans tout dans la vie. Si vous avez des attentes et qu'elles ne sont pas comblées, ben, vous finissez déçu. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fini déçu pour la plupart des films. Donc désormais, rappelez-moi de ne jamais écouter les avis des autres, de ne jamais regarder les spoilers, de ne jamais regarder les résumés. Maintenant, je m'interdis même de regarder les résumés de séries ou de films. Parce que j'ai, alors je m'imagine trop un truc et au final c'est pas du tout ce à quoi ce qu'on va me présenter en fait du tout. Donc voilà. Voilà donc pour ce 9e épisode, on le termine ici sur une belle note d'un film que j'ai apprécié. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a des classiques, on a du dessin animé et on a de la science-fiction, encore une fois. Oui, on n'a pas encore fini avec les Marvel et tout ce qui est un peu science-fiction, action, voilà. Bref, j'espère qu'il y a des fans de Marvel qui m'écoutent et qui du coup ne sont pas choqués de mon avis sur les Marvel. J'espère que vous êtes tolérants à ce niveau-là. Mais si vous êtes fan de Marvel et que vous voulez qu'on en discute, il n'y a pas de problème parce que moi je suis un peu larguée dans ce monde-là. Je leur donne leur chance, mais je suis quasiment sûre que je ne vais pas être fan de l'univers. Voilà, c'est un univers bien, mais sans plus. Voilà. Il est bien pour ceux qui sont à fond là-dedans, mais voilà, c'est pas mon truc. C'est comme Harry Potter en fait, soit tu aimes, soit tu détestes. Des fois, t'es un peu entre les deux. Et mes problèmes, c'est qu'il y a toujours les extrêmes qui sont là. Ouais, non, tu dois être à fond dedans ou pas du tout. Mais bon, voilà. Par exemple, moi, Harry Potter, j'ai accroché. Mais là, je suis pas une fan complètement tarée qui va acheter tous les goodies possibles et qui va vivre au rythme des films. Non, pas exagérer. Je passe des bons moments devant, mais je suis pas obsédée par ça. Donc, pareil pour les Marvel, je trouve que c'est des films qui ont de la qualité, que les histoires sont assez réfléchies, même des fois un peu trop, vu que moi-même, j'ai du mal à suivre. Mais c'est pas ma came quoi, on va dire. Donc voilà, je regarde les films, je vous donne mon avis sans avoir jamais rien su sur le monde, sans jamais avoir j'ai jamais rien regardé d'autre que ces films-là. J'ai jamais vu aucune série, jamais lu aucun comics, donc je ne sais rien de l'univers, j'arrive complètement vierge là-dedans dans ce monde-là. Donc chaque fois que je regarde un film, sachez que je n'ai jamais été spoilée, jamais été influencée, je ne sais rien du film en question. Mais voilà, vous aurez compris que je sais pas l'univers dans lequel j'accroche le plus. Mais néanmoins, on se retrouve quand même la semaine prochaine pour débattre de tout ça. Allez, à plus et merci de votre écoute.